Comme à chaque saison depuis 2 ans, le Tétalab organise du mercredi 19 au samedi 22 février 2020 son université des matins d'hiver, une université populaire où soufflent les zéphyrs de la bricole. Ou les relents du houblon, je n'ai jamais trop su. Pour cette édition, nous allons nous pencher sur le planning des cours. Et en planque pas loin du Tétalab dans Mixarbiris, nous avons la chance de mettre la main au collet sur Fatals Error, hacker, résident au sein du Tétalab et chef du BDE de ces universités.
C'est PU carré petit utile.
Pas du tout.
Mais si, un peu.
Gentil intervenant qui fait ce qu'il peut.
Alors on va y aller dans ce cas-là. D'où est venue l'idée des universités de saison du Tétalab ?
C'était il y a longtemps. Alors je pense que c'est venu d'un THSF, il me semble. Et on a décidé, il avait été envisagé avec d'autres gens et d'autres hackerspace aussi. Alors il me semble, hein, c'est à mettre, parce que c'est des discussions qu'on a eues à plein et pas trop moi justement. Mais il me semble que voilà, avait émergé l'idée d'organiser des choses un petit peu plus studieuses que le THSF, des moments où on est capable de plus travailler, plus apprendre, étudier, partager, ce genre de choses. Là où le THSF c'est quand même un moment davantage festif.
Et pourquoi 4 fois par an ? C'est un petit peu ambitieux ? C'est vous dire, ouais, il faut qu'on ait une présence ?
Alors, je pense qu'au tout départ, la première idée, c'était de faire les universités de nuit d'été, parce que ça sonnait comme un certain songe et que c'était joli. Et puis, bah, comme on avait fait des universités de nuit d'été, je pense que de fil en aiguille, assez naturellement, on s'est calé sur les saisons. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, si ça a été longuement réfléchi, je pense pas, on est plutôt spontané ici, mais voilà.
Le principe, ce sont des ateliers. Quel est le niveau technique demandé pour y participer ? Parce qu'entre nous, certains sont plutôt pointus, hein. Il est question de ray tracing, de programmation de X-Window, voire de faire son propre savon. Ça demande un sacré savoir-faire.
Ça dépend. Il y a des ateliers qui sont clairement orienté débutant, vraiment débutant. Je pense que même quelqu'un qui connaît rien à l'informatique peut tout à fait suivre un de ces ateliers. De toute façon, c'est indiqué dans le programme, hein, donc c'est les gens qui peuvent voir le programme sur le site web du Tétalab verront des mentions débutant, débutant plus. Alors débutant plus, ça veut dire ultra débutant de la mort, quoi. Donc limite, on connaît rien à l'informatique. Et après, sur des choses un peu plus pointues, oui, il y a des ateliers qui s'adressent plutôt à des gens qui veulent faire de l'informatique, qui vont plus loin que l'informatique quotidienne, voire pour des ASR. Hein, il y a certains ateliers qui sont orientés à administrateurs système et réseau. Mais voilà, il y a de tout. Là, tu disais, c'était comme une blague que l'atelier savon à faire soi-même. Non, là, pour le coup, il y a vraiment besoin d'aucune compétence. Et je dirais même que c'est le type d'atelier qui est capable d'attirer un petit peu un public différent et d'ouvrir en fait les horizons des gens par curiosité ou par concomitance, proximité, etc.
Alors, on mettra le lien sur la page de l'émission cpu.pm/0129 pour mettre le lien vers l'URL un petit peu plus compliqué du tableau du Tétalab et tout ça. Donc, c'est tétalab.org/fr/université_hiver_2020. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il y a de fun ?
Ça dépend des gens. Moi, j'organise pas tous les ateliers. Malheureusement, celui que j'organise est quand même un peu plus pointu, un peu plus orienté administrateur système et réseau. Il faudrait demander aux gens qui les organisent, mais disons que dans les trucs potentiellement bien fun, l'initiation à l'aquarelle, ça peut être sympa. Arduino, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une machine qui est faite pour les enfants, en fait, qui apprennent en cours de technologie à programmer et à faire de la technologie, en fait. Et donc l'Arduino, c'est vraiment ultra simplifié, c'est de l'informatique de très très bas niveau qui permet avec un apprentissage très très court et très simple de faire des choses assez amusantes, clignoter des LED, contrôler un moteur, ce genre de choses. Je pense un des trucs les plus fun qu'on peut faire. Et puis bah après, il y a toute la joie, la bonne humeur et les repas endiablés de midi qui seront certainement pleins d'ateliers pizza.
Donc du mercredi 19 au samedi 22, c'est de 10h à 18h.
Ouais, c'est ça. Donc c'est les matins d'hiver, donc bon, les matins étendus, on va dire.
Et il vaut mieux se préinscrire, je crois, pour la plupart des ateliers.
Oui, alors la plupart des ateliers, à de rares des exceptions, nécessitent une préinscription parce que le nombre de places est limité, vu qu'il faut manipuler des choses. Donc ça dépend aussi des quantités d'objets dont on dispose.
On peut y venir de quel âge à quel âge? Est-ce qu'il y a quelque chose prévu pour les enfants ou bah non, il vaut mieux plutôt être ado, consentant à manipuler le fer à souder?
C'est pas une question d'âge, c'est une question d'ouverture d'esprit. Donc il faut juste avoir un cerveau qui est apte à recevoir la connaissance, c'est tout. Il n'y a pas de prédisposition, alors la seule condition c'est peut-être prérequis technique pour certains ateliers un peu plus poussés.
Sur les précédentes éditions, il y avait combien à peu près de personnes qui venaient?
Alors c'est difficile à dire parce que déjà les précédentes éditions elles se déroulent pas toujours au même moment de la journée. C'est difficile aussi d'évaluer les simples visiteurs curieux et les gens qui sont vraiment dans les ateliers. Mais... Et puis, il y a les gens qui reviennent d'un jour sur l'autre. C'est difficile à compter aussi. Mais je dirais qu'à la louche, on doit tourner autour de la centaine de personnes.
Et à peu près quel public sont vraiment des débutants? C'est quoi? C'est des CSP+, qui programment des gens en SQL et qui rêvent de Tetris la nuit? Ou bien c'est des gens dont c'est pas spécialement le métier et qui viennent justement chercher pour essayer un petit peu de comprendre la matière et l'immatériel?
Il y a un peu de tout, il y a les deux en fait. Il y a effectivement des gens qui ont déjà des connaissances techniques qui viennent approfondir, des administrateurs système, ce genre de public. Mais il y a aussi des curieux, complètement, qui viennent sans a priori. Et aussi des militants, parce qu'il y a un aspect militant derrière tout ce qu'on fait, de DIY, donc de do it yourself, de fabriquer soi-même certaines choses. Qui est quelque chose qui est profondément écologique quelque part sous certains aspects. Et puis il y a du militantisme lié par exemple à des ateliers qui seront plus axés sécurité informatique ou vie privée.
Question, c'est vrai, on a parlé de s'inscrire, mais j'ai oublié peut-être le plus important, c'est est-ce qu'il faut payer combien ou est-ce que c'est en accès libre et on peut venir comme ça les mains dans les poches?
Alors c'est en accès libre, mais par contre c'est pas gratuit, il y a ce qu'on appelle une participation libre et nécessaire. Donc le principe est tout simple, c'est que pour accéder à l'atelier, on donne ce qu'on veut, ça peut être un centime symbolique, mais il faut donner quelque chose.
Est-ce qu'il faut venir avec du matériel, puisque donc on parle d'Arduino, il y a aussi du Raspberry Pi, voire même il y a la programmation, il vaut mieux être déjà équipé ou pour ceux qui n'ont pas ce qu'il faut, il y a peut-être du matériel en prêt.
Alors ça dépend, c'est généralement expliqué sur le site des inscriptions. Il y a une colonne prérequis, en fait c'est un tableau Excel, hein. Et la colonne prérequis explique ce qu'il faut avoir. Alors en général, l'équipement de base qui peut être requis pour certains ateliers, c'est le plus souvent un ordinateur portable.
Alors parmi ceux qui sont présents, qui présente des ateliers? Ce sont en général des rôdeurs autour du Theta Lab ou bien il y a aussi des personnes qui sont extérieures qui souhaitaient présenter quelque chose?
Alors pour les universités, de là tout de suite maintenant, je peux pas trop le dire. Il y a quand même énormément de gens du Theta Lab, forcément. Il y a des gens de Mixart Miris qui sont pas forcément Theta Lab, full Theta Lab, on va dire. Puis, alors traditionnellement, je sais que les précédentes éditions, il y avait des choses qui étaient proposées par des membres de Hackerspace d'autres villes. Alors des villes de proximité, hein, essentiellement Montpellier ou Bordeaux, puisque c'est des gens qu'on voit souvent vu la proximité géographique, forcément. Mais voilà, il y a aussi des propositions externes.
Ah, je croyais des villes plus sérieuses comme Colomiers ou Ramonville. Bon, d'accord, ok.
C'est sérieux, ça.
Les matinées... En hiver, ça va pas tirer un petit peu sur les yeux? Ouais, je sais, les matinées, quand même, ça commence à 10h, hein, ça risque d'être dur.
Ça va être dur, ouais, très dur. Pour ceux qui travaillent, je sais que ça va être compliqué.
Oui, je te confirme.
Et c'est mon cas. Donc moi, si vous voulez me voir, j'y serai pas ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi, ce sera le week-end.
Est-ce que les matins d'hiver, il fait froid dans le hangar du Mixart Miris, ou bien fuck off la planète, il y aura quand même un petit peu de chauffage?
Je dirais que grâce au réchauffement climatique, si ça continue comme ça, normalement, ça devrait bien se passer. Non, c'est une blague. Mais non, le temps est plutôt clément ces derniers temps, mais il peut faire froid, effectivement. Donc, il faut prévoir la doudoune quand même.
La doudoune et tout ça. On va reprendre un petit peu la programmation qu'il y a dedans. Donc, il y a atelier d'initiation à l'aquarelle, il y a du graphisme avec du blender, il y a de la musique, il y a de l'algorithmie de base, il y a du développement. Est-ce qu'il y a des tendances qui ressortent ? Toi, franchement, qu'est-ce que tu aimerais essayer ? Soit pour le côté, justement, ça à côté, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, ça semble facile, et... Ouais, non, là, ça semble être pointu, j'ai envie de m'y lancer.
Alors, moi, dans ce que j'aimerais essayer et sur lequel j'ai absolument aucune compétence, je partirais bien sur l'atelier Blender. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Blender, ça sert à faire de la 3D professionnelle. Hein, on peut faire... Il y a des studios de cinéma qui utilisent Blender, hein, ça existe. Si on veut faire du rendu 3D, c'est quand même pas mal. Et oui, je pense qu'il faut être un petit peu guidé, au moins au début, pour pouvoir faire ses marques sous Blender. Après, dans les trucs qui peuvent être assez fun, je suis en train de parler dedans, donc il y a la fabrication d'un micro piezo en capteur électromagnétique.
Waouh!
Eh ben écoute,
ça c'est de la physique quand même.
Ouais, ben je suis curieux, rien que pour, parce que j'imagine que c'est fait de briques et de broc et avec les moyens du bord, donc j'ai bien envie de voir ça juste pour savoir comment ils font.
Ah, ça va être fun. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a code génétique et data sonification. D'ailleurs, je crois qu'on en a parlé dans une précédente émission dans Bio is the New Black, épisode 2. Gestion de système de fichiers. Ça, c'est toi ?
Ouais. Moi, je vais parler de système de fichiers pendant, on va dire, 1h30, 2h. Et je vais expliquer que les systèmes de fichiers, c'est compliqué.
Donc, comment bien organiser son filofax papier ?
Non. Pas du tout. Comment choisir son système de fichiers en fonction des contraintes de l'usage ? Est-ce qu'on a un usage au niveau de disponibilité ou à haute performance ou les deux ? Ou voilà, est-ce qu'on a besoin de taille démesurée ou est-ce qu'on a besoin de voilà ? Est-ce qu'on veut que ce soit performant avec des petits fichiers ou avec des gros fichiers ? C'est pas du tout les mêmes contraintes.
BRTFS, ZFS, X4FS, enfin des trucs sur les dimensions et beaucoup de politiques de développement derrière.
Oui, il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas, mais les partages réseau, en fait, ce sont des systèmes de fichiers qui ont leurs propres limites et leurs propres contraintes, donc ça c'est intéressant à étudier, et en plus avec l'augmentation de la vitesse des liens réseau et de la qualité des équipements, de plus en plus on se tourne vers des systèmes de fichiers dits réseau, où là pour le coup le système de fichiers est pensé pour être distribué sur plusieurs machines, et c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées, on va dire plus dans le domaine de l'entreprise ou dans le cloud, ce genre de choses, et voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être étudié, et souvent c'est quand même un domaine où on suit beaucoup des phénomènes de mode sans trop se poser de questions, et donc c'est bien d'en parler.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous discutons avec Fatal Seror de l'Université d'Hiver du Tétalab qui aura lieu donc du 19 au 22 février 2020, cette année. Et prévoyez donc la petite laine, ça va être plutôt sympa. On parlait justement que ces universités ont lieu une fois par saison. Est-ce que l'organisation n'entre pas un petit peu en concurrence au THSF, ou est-ce qu'elles, contraire, elles permettent d'aider à l'organisation du prochain THSF ? Non, j'aime pas quand tu me regardes comme ça. Non.
Ouch. Sujet sensible. Alors déjà, mauvaise nouvelle, il n'y aura pas de THSF cette année.
Non,
en 2000.
Non !
Oh là là, quelle fake news.
Je suis navré. Il y aura autre chose à la place, mais je peux pas en parler parce que c'est pas encore sûr, c'est encore en préparation, voilà.
Et puis un petit peu de suspense pour nos camarades de la DGSI qui nous écoutent.
Oui, on les aime. Continuez.
Et ensuite, donc, sur l'organisation, quand même, ça a permis, ça revient après de temps à autre, il y a un automatisme qui se crée, il y a des choses à voir.
Bah, après, pour l'organisation d'un événement tel que le THSF, c'est quand même quelque chose d'assez gros, y a une contrainte majeure qui est la disponibilité des gens en termes de temps et en termes de force de travail disponible à consacrer à l'organisation de ce truc-là. Et malheureusement, là, on a atteint les limites de nos capacités là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui l'ont organisé, on va dire, beaucoup trop souvent et en étant trop peu nombreux pour pouvoir encore en assumer un de plus. Donc voilà, donc cette année il n'y en a pas et à la place on va organiser autre chose et cette autre chose aura également pour objet notamment de savoir comment on organise un futur THSF.
Qu'il y aura-t-il samedi 22 après 18h, donc après la fin officielle de l'université? J'ai cru comprendre que ça allait être le bordel à Mixar. Donc sauf erreur, je crois qu'il y a le festival du sticker, c'est ça?
Ouais, alors, c'est le 22 février, la All Groove to the People, c'est la soirée de clôture d'un festival. Il y aura des jeux vidéo, création musicale, numérique, avec Bilal Dacrou, la création d'un combo stickers, de custom d'objets, de jump stickers et de jing participatif. Je ne sais pas ce que c'est, mais venez si vous êtes curieux.
Vjing, c'est mixer les images. T'as jamais fait ça, toi?
Non. Et moi,
tu vas apprendre à commuter entre les sources.
Je suis administrateur système. Je fournis des moyens aux gens, mais je m'en sers pas. Bref. Et après, on va finir en beauté avec des concerts. Donc, Mescla qui fait du hip-hop, Akios qui fait du DJ-set électro-funk, une amie carré, j'imagine, c'est un J, ça doit se prononcer à l'espagnol, DJ-set électro-techno et Contrasted Collective. Du DJ-set jungle et du drum and bass.
Et il y en a qui s'excitent derrière. Et donc, c'est la soirée clôture du FIST, le Festival International du Stickers à Toulouse, si je me trompe. Donc, attention, vous risquez de partir avec pas mal de choses à coller sur votre frigo. Voilà, sur votre frigo.
Voilà, et puis on aime bien fister. Tu vois, c'est les gros. Voilà.
Est-ce qu'on est lourd? Non, à peine. Est-ce qu'on a déjà les dates de l'université du printemps?
Pas encore. Non, c'est trop tôt. Mais, par là.
Tu sais quoi?
Qui se marre derrière. Donc voilà, on enregistre ce segment au sein du Tétalab. Et c'est le soir où tout le monde se rencontre. Donc, c'est le bazar. Et j'ai pas mis le micro d'ambiance, donc on peut pas entendre, c'est dommage.
On n'est pas sûr, donc voilà, on sait pas.
Dernière question, quel a été ton souvenir sur une précédente université de saison qui t'avait bien plu? Et que tu t'es dit, oh, j'aimerais bien le faire partager à quelqu'un, ça.
Si, un truc que je me rappelle bien, c'est Tiano qui avait, on va dire, envahi une salle complète, une grande salle, hein, où il y avait tous ces machins qui clignotaient partout dans tous les sens avec je sais pas comment ça s'appelle en fait, des trucs qui ont pas la même forme suivant l'angle dans lequel tu le regardes, qui sont, enfin c'était génial, enfin il y avait plein de trucs pour se régaler les yeux, les oreilles et je pense que c'était bien aussi pour attirer les gens et du coup comme ils posaient des questions, savoir comment c'était fait tout ça, ils pouvaient renvoyer aussi sur ce qu'on faisait aux universités.
Fatal Serror, merci beaucoup de m'avoir répondu à mes questions donc sur ces universités du matin d'hiver du Tétalab au sein de Mixar Myris, c'est donc du 19 au 22 février avec un petit débrief je crois le 23, et vous pouvez refaire du bruit derrière, ça va, ça me gêne moins maintenant que l'interview est finie.